France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Jeudi 14 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité, ce matin, l'A380 est mort. Changement de stratégie pour Airbus, dont le très gros porteur lancé il y a 12 ans n'a jamais remporté le succès escompté. Plus aucun A380 ne sortira des chaînes de production après 2021. Les autres titres.
Un an de prison ferme pour l'ex-boxeur Christophe Détinger qui pourra travailler le jour et dormir en prison la nuit. Alain Juppé quitte Bordeaux et la politique pour rejoindre le Conseil constitutionnel. La résistance des derniers soldats de l'État islamique en Syrie. Un espoir français dans la lutte contre l'addiction aux antidouleurs. Et puis un vent de fraîcheur a soufflé hier soir sur la musique classique.
Les invités de France Inter ce matin. Rebonjour Léa Salamé, 7h50.
Pas content les patrons. Le MEDEF a quitté la table des négociations de l'assurance chômage pendant plusieurs semaines avant d'accepter d'y revenir pour la première fois ce jeudi. Pourquoi ce coup de sang? Y a-t-il de la friture sur la ligne entre les patrons et le président? On pose la question au patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, notre invité à 7h50.
A tout à l'heure, à 8h20, harcèlement, violence, racisme sur Internet. Le gouvernement semble prêt à agir. Comment et avec quel espoir de juguler ces phénomènes? On en parle avec Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, invité du grand entretien. Vos questions au standard, il est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand la justice passe et apaise les esprits, c'est ce qui est arrivé hier soir lors du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris et ce n'était pas gagné d'avance. Au départ de l'affaire des coups violents portés par l'ex-boxeur Christophe Détinger sur deux gendarmes en marge d'une manifestation des Gilets jaunes le 5 janvier dernier à Paris et des débats tendus hier dans une salle pleine à craquer de journalistes et de soutien des deux parties. Christophe Détinger a finalement été condamné à 2 ans et demi de prison dont un an ferme. Laurie Licari va assister à l'audience pour France Inter.
Des applaudissements à la sortie de la salle d'audience. On entend même fuser un Christophe, on t'aime. Un soulagement certain se lit sur le visage des trois avocats de l'ex-champion de boxe, Maître Hugues Vigier.
Oui, c'est une décision qui globalement nous satisfait. C'était un peu l'idée que nous avions, c'est-à-dire que cela justifiait une peine qui devait être une peine ferme et sévère. C'est une peine d'un an ferme prononcée. Beaucoup moins tout de même que ce qui était requis, mais surtout aménagé dès le départ. D'ici 2 ou 3 jours, sans doute, il pourra recouvrer la liberté pendant la journée. Et puis, d'ici 2 ou 3 mois, sans doute, nous reviendrons devant le juge d'application des peines pour lui demander de convertir la mesure provisoire de semi-liberté en libération conditionnelle.
En semi-liberté, Christophe Détinger pourra donc travailler la journée tout en rentrant le soir à la prison de Fleury-Mérogis. Il a par ailleurs interdiction de se rendre à Paris dans les 6 prochains mois. Lui qui, à l'audience, a fait part de ses regrets. « J'ai fait une grosse erreur, j'étais pas venu pour en découdre, tout a basculé en 2 minutes, je ne suis pas un tueur de flics », a-t-il répété. Le procureur avait décrit dans son comportement un inquiétant sentiment de toute puissance lors de son déchaînement de violence face aux gendarmes. Christophe Détinger devra indemniser ses 2 victimes à hauteur de 2 et 3 000 euros.
Et quant à la cagnotte lancée pour soutenir le boxeur, elle avait recueilli 120 000 euros, déclenchant un début de polémique. Pour l'heure, Litchi a gelé les fonds. L'argent servira à payer les frais de justice sur présentation de facture. Le reste sera redistribué. Quant à la contre-cagnotte lancée par le président LR de PACA, Renaud Muselier, pour soutenir les forces de l'ordre, elle a permis de récolter près d'1 400 000 euros. La somme doit être remise officiellement aujourd'hui à l'amicale de la police nationale lors d'une cérémonie aux Invalides en présence du ministre de l'Intérieur.
Il est 7h04, changement de stratégie donc pour Airbus.
Fini les A380, ces géants des airs lancés il y a 12 ans, trop chers, trop gros, trop gourmands. Ils n'ont pas séduit les compagnies aériennes. En fait, seul Emirates était vraiment intéressé, mais vient justement de réduire son niveau de commande d'A380, passant de 162 à 123 appareils, pour commander plus d'A350 et d'A330neo. Les livraisons des A380 vont donc cesser définitivement d'ici 2 ans. Une décision qui ne devrait pas avoir de conséquences sur l'emploi. Stéphane Iglesis.
C'est fini et cette fois c'est officiel. L'A380 n'est plus adapté au marché des longs courriers d'aujourd'hui. Les compagnies ont quasiment tiré un trait sur les quadriréacteurs. Leur nouvelle coqueluches s'appellent Airbus A350, Boeing 787 ou 777. Ces bireacteurs de nouvelle génération ont le même rayon d'action que l'A380. Avantage, ces A350 ou Boeing Dreamliner n'obligent pas les aéroports à des travaux supplémentaires pour les accueillir. De plus, ils consomment moins avec des moteurs optimisés et à 50 passagers près pour certains d'entre eux, ils ont la même capacité d'emport que le gros porteur d'Airbus. Sur 28 000 avions dans le monde, il n'y a plus que 900 quadriréacteurs sur le marché, dont un quart d'A380. L'arrêt de la chaîne de l'A380 n'aura quasiment pas d'impact social sur les salariés d'Airbus, affirment plusieurs sources internes, car il sera facile de redéployer les effectifs concernés sur les avions très demandés que sont l'A320 ou l'A350. Toulouse, Stéphanie Glaisis, France Inter.
Le projet est baptisé l'Airbus des batteries, même s'il n'a rien à voir avec le constructeur aéronautique européen. Paris va débloquer 700 millions d'euros sur 5 ans pour soutenir le projet franco-allemand de développement de la filière de batteries électriques pour voitures nouvelle génération, un secteur actuellement dominé par les industriels asiatiques. Fini aussi la politique pour un poids lourd de la droite. Alain Juppé va succéder à Lionel Jospin au sein du Conseil constitutionnel. Une annonce hier après-midi qui a créé la surprise. Alain Juppé doit l'annoncer officiellement ce matin lors d'une conférence de presse dans sa ville de Bordeaux. C'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui lui a proposé de siéger parmi les sages. Alain Juppé a aussitôt accepté, tournant ainsi la page de 40 ans d'une vie politique mouvementée. Maxence Lambrec.
Jacques Chirac l'avait pris sous son aile en 1976. Le meilleur d'entre nous était devenu son premier ministre en 1995, droit dans ses bottes.
Nous allons réussir, je le crois, de tout mon cœur. Et de toutes mes forces.
Condamné 9 ans plus tard dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris, son retour, il le doit à sa ville de Bordeaux, puis à Nicolas Sarkozy qui le nomme ministre d'État. En 2016, il part favori de l'élection présidentielle jusqu'à la primaire et sa terrible désillusion.
J'ai donné 40 ans de ma vie au service de la France et cela m'a apporté de grands bonheurs et quelques peines.
Alain Juppé va maintenant quitter la scène, rejoindre Laurent Fabius, qui rêvait comme lui de l'Élysée. Fini les mots doux à l'égard du président ou de son ami Édouard Philippe. Adieu les attaques contre Laurent Wauquiez et son ancien parti. Alain Juppé sera désormais tous les mardis à 9h30 au Palais Royal pour les audiences du Conseil constitutionnel. Il va y retrouver 5 hommes et 4 femmes, 70 ans de moyenne d'âge et une centaine de décisions à prendre chaque année. Des décisions juridiques à l'interprétation souvent politique.
Et deux autres personnalités ont été nommées hier, l'ancien ministre Jacques Mézard et le sénateur du Cher François Pillet. La politique est le grand débat. Emmanuel Macron est attendu dans l'Indre aujourd'hui pour une rencontre avec les élus dans la mairie de Gargilès-Dampierre, dont le premier édile n'est autre que Vanick Berberian, le président de l'Association des maires ruraux de France. Le chef de l'État discutera ensuite avec des chefs d'entreprise. La politique et les difficiles négociations. Après 2 semaines de suspension, celles sur l'assurance chômage reprennent aujourd'hui avec 2 points clés. La lutte contre les contrats courts et les conditions d'indemnisation des chômeurs. Quant à la réforme de la fonction publique, le texte est présenté officiellement ce matin en conférence de presse. Les syndicats l'ont découvert hier, ils sont vent debout. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, des combats acharnés dans l'est de la Syrie, Agnès, où les derniers combattants de l'État islamique font de la résistance.
Ils ne sont plus que quelques centaines retranchés dans la localité de Baghouz, assiégée depuis samedi dernier par les forces arabo-kurdes, mais ils continuent de se défendre, ralentissant la progression des forces démocratiques syriennes qui continuent cependant de croire à la victoire totale dans les prochains jours. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter en Syrie, Étienne Monin.
Dans la base qui sert de camp au service de presse des Kurdes et aux journalistes internationaux, les ouvriers terminent l'installation du lieu de la célébration avec une scène en planches et en moellons, des porte-drapeaux fixés sur de lourdes jantes de voitures et des marqueurs au sol blancs comme la couleur des murs qui viennent entièrement d'être repeints. Mais le décor contraste encore avec la ligne de front. Hier, l'intensité des combats semblait limitée. La résistance de Daesh est importante. Adnan Afrin, l'un des commandants kurdes des forces démocratiques syriennes. Jusqu'à présent, ils résistent encore bien, mais c'est sûr, ils vont tomber devant notre force. Notre problème principal, ce sont les mines. Et ensuite, il y a les kamikazes et les voitures piégées. C'est cela qui pose problème aux camarades. Les Kurdes disent aussi vouloir épargner les civils. Le nombre à l'intérieur de Baghouz est plus plus élevé qu'initialement estimé. Selon les sources, mardi, entre 1300 et plus de 2000 personnes se sont livrées à l'Alliance arabo-kurde. Baghouz Étienne Monin, France Inter.
Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui au Japon la première réunion de travail officiel entre avocats et magistrats en vue du procès de Carlos Ghosn. Et c'est également aujourd'hui que Renault publie ses résultats pour l'année 2018, les derniers donc de l'ère Ghosn. Et les spécialistes tablent sur un bénéfice net en baisse par rapport aux chiffres records de 5,1 milliards d'euros de 2017.
Un espoir dans la lutte contre l'addiction aux antidouleurs.
Une addiction aux opiacés dévastatrice aux États-Unis. 11 millions de personnes dépendantes et 170 morts par jour. Un fléau qui gagne la France. Et c'est d'ailleurs une équipe française qui travaille sur un nanomédicament capable de cibler la zone douloureuse tout en évitant les effets secondaires des opiacés. Daniel Messager.
La morphine et les opiacés de synthèse constituent aujourd'hui les médicaments les plus efficaces contre les douleurs sévères. Mais cette efficacité a un revers, des problèmes respiratoires et surtout une forte addiction. Il faut savoir que le corps produit naturellement des neuropeptides, par exemple l'endorphine, qu'on sécrète quand on fait beaucoup de sport, qui a la capacité d'endormir la douleur et en plus de procurer du bien-être. Pourquoi alors ne pas les utiliser? Le professeur Patrick Couvreur a conduit cette recherche à l'Institut Gallienne de l'Université Paris-Sud.
L'idée qu'on a eue, c'était de dire on va reprendre ces neuropeptides naturels, les encapsuler dans ce qu'on appelle des nanomédicaments qui font une taille à peu près 70 fois plus petite qu'un globule rouge. On a testé sur des animaux de laboratoire et on a constaté qu'effectivement, on avait un effet antidouleur beaucoup plus prolongé que dans le cas de la morphine. Et chose beaucoup plus intéressante, vous n'avez pas de phénomène d'effet secondaire lié à l'addiction, à la dépendance et à la tolérance.
C'est parce que ces nanomédicaments épargnent le tissu cérébral qu'ils ne provoquent pas d'addiction. Cette recherche effectuée aujourd'hui sur des rats devra se poursuivre sur l'homme, mais soulager longtemps les douleurs profondes sans dépendance ni toxicité serait une révolution dans le traitement de la douleur.
Retour à présent sur les 26e victoires de la musique classique qui se sont déroulées hier soir à la scène musicale de Boulogne-Billancourt, une soirée qui a consacré les valeurs sûres. Le pianiste chinois Lang Lang a reçu une victoire d'honneur, un hommage a été rendu à Michel Legrand par le violoniste Renaud Capuçon, mais une soirée qui a également permis de découvrir de jeunes artistes qui ont déjà conquis Stéphane Capron.
Thibaut Garcia a 24 ans, il est guitariste, il a reçu hier soir la victoire de la révélation soliste. En 26 ans de cérémonie, c'est la deuxième fois seulement qu'un trophée est décerné à un guitariste.
C'est quand même paradoxal qu'il n'y en ait pas plus parce que c'est un instrument qui est très français. Je veux dire, on a quand même une école française avec la Goya, Presti, c'est des grands noms de la guitare française. On ne demande pas à ce qu'il n'y ait que de la guitare, on aimerait que ça fasse partie du paysage musical et je trouve que la guitare commence à avoir sa place.
Thibaut Garcia y participe, il a créé à Toulouse, sa ville natale, un festival de guitare. Autre révélation de la soirée, la mezzo-soprano Eleonore Pancrasi. Elle fait la fierté de la Corse et l'a baignée dans une famille qui aime la musique.
Quand j'avais 16 ans, mes parents ont organisé un festival à Corté qui s'appelait Les Nuits d'été. Et un soir, il y a eu un bœuf après un concert et un des chanteurs, d'ailleurs je le remercie du fond du cœur, qui s'appelle Marc Scofone, finalement je lui dois beaucoup parce que c'est un peu grâce à lui aussi que ça a commencé. Il m'a demandé de chanter un duo de Mozart avec lui et il a entendu une voix, il est allé voir mes parents, il lui a dit faut lui faire prendre des cours de chant.
La carrière d'Eleonore Pancrasi est lancée, elle va enchaîner les rôles dans les prochains mois. Carmen, Manon et Lucrèce Borgia à Moscou.
Et un grand merci Agnès Soubiran.